Mercredi, j'ai partagé avec le groupe de prière un texte tiré des Actes des apôtres. Et j'avais à cœur, ce matin, vu les circonstances, de le reprendre et de le partager. C'est dans Acte 8, 26. On va pouvoir vous le projeter si vous n'avez pas votre Bible avec vous. Une rencontre particulière. J'ai donné à ce temps de partage de l'Écriture le titre suivant. L'eunuque éthiopien, quand la vie supplante la mort. J'aime beaucoup. C'est pas parce que je l'ai trouvé, mais je trouve que c'est une belle espérance quand la vie supplante la mort. Acte 8, 26, on est dans cette naissance de l'Église et il y a un récit particulier où alors là, c'est à la fois la naissance de l'Église, mais c'est aussi une rencontre individuelle. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Asdod, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà un texte qui nous parle d'une rencontre entre un homme, Philippe, qui a une place un peu particulière dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, et puis un eunuque éthiopien qui est allé sur la ville de Jérusalem pour y adorer Dieu. Et ce matin, je vous invite à lire ce passage des Actes des Apôtres qui m'enseigne ces deux personnages très différents et à vous laisser questionner sur la foi qui les anime à tous deux. Une foi qui devrait nous questionner sur notre propre capacité à avancer pour et avec Dieu, à nous mettre en mouvement et de quelle manière se mettre en mouvement. S'il y a une ligne commune entre Philippe et l'eunuque éthiopien, c'est le fait que la foi vraiment les met en mouvement. Croire, c'est accepter de quitter sa famille, parfois, quitter ses habitudes, sa culture. Croire, c'est accepter d'aller, d'avancer, de risquer, d'accepter l'inconnu, d'accepter de ne pas maîtriser l'objectif de Dieu ou le but que Dieu a et que je ne connais pas. Moi, ça m'insécurise. Oh là là, Moi, je suis toujours, Seigneur, oui, d'accord, mais pourquoi? Ben non, ben, parfois il faut se mettre en route comme cela. Accepter aussi que le regard de Dieu soit diamétralement à l'opposé de ma logique. Ça, ça me dérange aussi. Moi, j'ai tendance à penser que Dieu doit rentrer dans ma logique. Et c'est inconfortable quand je dois rentrer dans la sienne. Et en même temps, c'est certainement l'aventure la plus extraordinaire qui peut nous concerner les uns et les autres. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse se dire, voilà, il y a deux personnages, Philippe, l'eunuque, l'eunuque, Philippe. Et leur démarche, leur manière d'être, l'expérience qu'ils vivent avec Dieu, je souhaiterais que vous puissiez la faire vôtre aussi. Alors, soyez attentifs. Ne choisissez pas l'un ou l'autre. Choisissez les deux. Dites-vous que le modèle de Philippe, c'est aussi quelque chose qui doit vous parler. Ah oui, Philippe, c'est facile, c'est un homme qui est entré au service de Dieu, qui a un appel, etc. Oh, je m'y reconnais tellement. Bon, le nuque, non, il commence, lui, c'est un débutant. Non, c'est pas moi. Oui, sauf que ce débutant-là, il a quelque chose à me dire sur la manière aussi d'être sincère dans ma foi, d'avancer, de m'engager. Donc, je vous invite à regarder Philippe et l'eunuque et vous dire, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils me disent à moi? Qu'est-ce que Dieu et l'Esprit-Saint veulent m'apprendre dans ces deux personnes? On prend l'exemple de Philippe. En fait, Philippe est un diacre qui, au chapitre 6 des Actes, a été choisi. Alors, c'est un homme, Philippe, qui est conduit dans une rencontre, là, au chapitre 8, une rencontre témoignage avec cet eunuque, conduit par l'Esprit et mise en œuvre, j'ai envie de dire, ça c'est l'ancien directeur qui parle, avec un business plan qui est incohérent. C'est-à-dire, si tu veux construire quelque chose, un projet d'entreprise, etc., il faut faire les choses de manière cohérente. Là, le Saint-Esprit, c'est quand même un peu n'importe quoi à première vue. Et pourtant, Philippe rentre dans le plan de Dieu sans se poser de questions. Mais c'est quelqu'un qui déjà a démontré qu'il avait une stature, une attitude, une manière d'être et de faire qui était vraiment, je dirais, dans l'écoute de Dieu. Au chapitre 6, les apôtres commencent à être dépassés par le quotidien, par les obligations des nouveaux convertis à prendre en compte, à accompagner, les veuves à nourrir. Et il est dit qu'à un moment donné, au chapitre 6, ils sont tellement débordés par ce réveil spirituel, eh bien que les disciples se multipliaient beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Moi, j'ai été étonné de relire ça parce que je n'avais pas remarqué que c'était une grande foule de sacrificateurs. C'est-à-dire des religieux qui étaient là et étaient gagnés par le Saint-Esprit. Ça donne de l'espérance. Hein ? Si les êtres religieux finissent par passer de la loi à la foi, ça nous donne de l'espérance à nous aussi. Et les apôtres sont tellement débordés qu'ils disent, ben voilà, on ne peut pas s'occuper de tout. Et de la parole et de donner à manger aux veuves et aux orphelins. Alors, il est dit au chapitre 6 de choisir parmi les disciples ceux qui sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et vous les installerez comme diacres, chargés du travail au quotidien. Ah bon, ils ne sont pas choisis comme apôtres directement? Non, non, comme diacres. Mais quand vous voyez Philippe, au chapitre 6, il est installé comme diacre pour servir et aider à prendre en charge ceux qui sont en souffrance, qui sont pauvres. Et au chapitre 8, il est en train d'évangéliser et d'amener des foules à la conversion. On se dit, tiens, quelqu'un me disait hier, est-ce que dans l'appel, on peut passer à une autre dimension ou d'un appel à un autre? Bah, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut, on est enfermé dans un appel, là, est-ce que Philippe, il est enfermé dans son appel de diacre? Hein? Non. Il évangélise et il amène des foules à la foi. Il n'y a pas, On n'est pas enfermé dans notre appel. C'est celui qui nous appelle qui dit, bon, pour l'instant, je te veux là, mais ensuite, continue, élargis l'appel qui est le tien. Tu es prêt ? À élargir ton appel, à ne pas t'enfermer dans un cadre, lui pour lui, oui, bon, bah, je vais m'occuper des veuves, des orphelins, de ceux qui ont faim, etc. Et puis quelques jours après, il évangélise des foules, mais des foules ! Est-ce que ce service qui demande à ce qu'on soit rempli d'Esprit Saint, même le service diaconal, peut nous emmener dans des chemins nouveaux que le Seigneur nous confie. Et parfois, on est à la fois les autorités de l'Église et à la fois soi-même tellement habitué. Moi, je me rappelle d'une réunion avec toute l'équipe soignante du lieu où je travaillais. Et puis, il y avait une patiente. Je ne savais pas où la mettre, dans quelle case la mettre. Elle avait tellement des comportements différents, des attitudes, etc. Alors j'ai dit à la psychiatre, j'ai dit, mais vous ne pourriez pas me la mettre dans une case avec un nom et une étiquette ? Moi, ça me rendrait service. Puis la psychiatre en question m'a regardé, elle me dit, non, monsieur Wangto, on ne met pas les gens dans des cases. Ça, c'est l'habitude humaine. On aime bien dire, ah, lui, il est comme ça, elle est comme ça, lui ou elle, ils servent dans tel, etc. Mais la vie, ça ne rentre pas dans les cases. Philippe ne rentrait pas dans une case. Il est sorti de cette case-là et du diacre, il est allé évangéliser. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que la vie puisse s'écouler, que tu puisses servir au-delà des étiquettes et même des pensées que tu as sur toi-même. Alors Philippe, il est dans cette attitude de liberté et aussi d'obéissance. S'il y a une caractéristique chez Philippe, c'est qu'il obéit simplement. Là où Jonas reçoit l'appel de Dieu, lève-toi et va à Ninive, et dit, pas ça, pas pour moi. Et puis en plus, je ne les aime pas, les habitants de Ninive. Ils sont désobéissants, ils font des bêtises, etc. Non. Philippe, il reçoit l'appel de Dieu, et il se lève et il y va. La direction et la priorité de Dieu, c'est cela qui prime pour lui et ça devrait être ce qui prime pour nous. Philippe est descendu de la ville de Samarie. J'aimerais bien qu'on mette la diapo 2, pas la 1. Voilà. Je vous ai fait... Il y a trois diapos, hein, je ne vais pas vous... C'est l'itinéraire de Philippe. Il est parti... de Jérusalem où il travaillait, il est allé jusqu'en Samarie, village de, et il est descendu dans la ville de Samarie. Alors la Samarie, c'est une région, mais c'est aussi une ville qui aujourd'hui a quasiment disparu. Elle compte 300 habitants à peu près, mais c'est une ville. Et il est dit que après avoir au chapitre 8, il se retrouve à Samarie et il y a des foules qui là s'attachaient à ce que disait Philippe, c'est au début du chapitre 8, et un ange du Seigneur l'adresse la parole à Philippe et qui lui dit, voilà, il est diacre à Jérusalem, il va à Samarie, et là, waouh, extraordinaire. Les foules se convertissent, les gens s'attachent à Philippe, etc. Il y a même un certain Simon le magicien qui est là et qui dit « Mais c'est formidable ce qui se passe. Finalement, le Saint-Esprit, c'est mieux que la magie que j'étais en train de faire. » Et qui s'attache aussi à l'enseignement et puis à ce qu'il découvre aux côtés de Philippe. Et un ange, alors qu'il est dans ce temps extraordinaire, un ange lui dit « Bon, ben maintenant... lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem. » Alors, je vous ai fait les kilomètres, parce que parfois, être dans le concret de la parole, ça nous dit aussi des choses. Il part donc de Samarie à Jérusalem, ou de Jérusalem à Samarie, et puis ensuite, Dieu lui dit, va sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. Et vous avez les kilomètres. Ça veut dire qu'il fait 55 kilomètres pour aller de Jérusalem à Samarie, et ça se passe tellement bien qu'on peut se dire, mais pourquoi le Saint-Esprit décide de le renvoyer sur un chemin où il n'y a personne. C'est pour ça que je disais que le business plan du Saint-Esprit, il n'est pas clair quand même. Moi, j'aurais dit au Saint-Esprit, écoute, c'est bien, mais tu sais, aller sur un chemin où il n'y a personne, alors que je suis à Samarie, où ça marche, selon l'expression du feu de Dieu. Non, je vais rester là. Et lui, bon, d'accord, là, je vis des choses extraordinaires, mais je vais là où tu me dis. C'est-à-dire qu'il fait 55 km, il va à Samarie, et le Saint-Esprit dit, va sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. C'est-à-dire qu'il fait 110 km pour aller, la fiche de remboursement, hein. Pour la présidente ou la comptable de l'église, ça a dû coûter cher. Hein. Et après, il dit, bah, tu redescends, et là, tu refais 90 km sur un chemin où il n'y a personne. Et on ne sait même pas, entre Jérusalem et Gaza, à quel endroit il doit aller. Il dit, tu vas sur ce chemin-là. Est-ce que la direction de Dieu, la manière dont Dieu nous conduit, peut être aussi dépendante de notre obéissance? C'est-à-dire que, quelque part, ce que Dieu nous dit, ce n'est pas... je te veux à tel endroit pour faire ceci, mais prends cette direction-là, et dans cette direction que tu emprunteras, j'accomplirai ma volonté. Et moi, je trouve que ce modèle-là de Philippe est très intéressant, parce qu'il nous parle aussi de la manière dont nous, on a des exigences par rapport à Dieu. Hein ? On veut savoir, on veut être, je dirais, au clair, avoir les détails, et puis, on veut aussi savoir ce qu'on perd par rapport à ce qu'on va gagner. Et là, pour Philippe, ce qu'il perd, il le sait, il y a des foules qui s'attachent à lui, ça peut flatter l'ego, hein. Et tout à coup, Dieu lui dit, bah non. Il y avait un pasteur américain dans les années 50-60 qui avait une très très grande église de plusieurs centaines, voire milliers de personnes, qui s'appelait David Duplessis. Puis le Seigneur lui a dit, comme à Philippe, bon, bah tu t'arrêtes, je vais t'envoyer ailleurs. Et puis David Duplessis, mais pour l'instant, je suis trop occupé, j'ai une grande église, etc. Et puis Pierre lui dit, maintenant, il y a quelque chose qui se passe, notamment au niveau de l'église catholique, il était pentecôtiste, et David Duplessis, le Seigneur lui dit, bah, je vais t'utiliser pour ce travail-là, commence à te préparer pour aller sur ce chemin-là. Et il dit, mais attends, je sais pas. Et donc, il n'a pas écouté, il dit, non, pour l'instant, bah, quand j'aurai un moment, je m'y consacrerai, mais là, pour l'instant, il y a trop de choses. Et puis, résultat des courses, il a fait un livre de témoignage. Il a eu un accident de voiture assez sérieux. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec notamment une ou deux jambes cassées. Et quand il était sur son lit d'hôpital, le Seigneur, dans un temps de prière qu'il avait, lui a dit, « Bon, maintenant, on peut parler. » Et là, David Duplessis a dit, « Bah, oui, vu ma situation, oui. » Et le Seigneur dit, voilà, je veux t'utiliser pour que tu sois un élément important dans le dialogue qui se passe aujourd'hui dans l'Église catholique, notamment avec le Concile Vatican II. Et l'Église catholique a sollicité David Duplessis ensuite pour dire, voilà, on voudrait avoir un regard d'un pasteur évangélique sur ce que nous sommes en train de vivre pour nous apporter son regard et nous encourager. David Duplessis a été une pierre fondamentale de Vatican II. Il n'avait jamais pensé à ça. Il est allé sur un chemin désert en se disant « Mais je fais quoi là ?» Un peu comme Philippe. Et il y a parfois des moments où nous sommes tellement dans l'exigence de préserver ce que nous avons et de ne pas faire confiance quand Dieu dit « Va sur le chemin désert qui descend à Gaza ». Alors, ça peut être un chemin désert, mais si c'est la pensée de Dieu pour ta vie, s'il te demande de te préparer, d'aller de l'avant, d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir aussi ton esprit. David Duplessis, il était là, il dit, mais attends, Seigneur, tu te rends compte que je suis un pasteur pentecôtiste? C'est quand même un peu rédhibitoire par rapport à l'Église catholique. Et finalement, il a ouvert son cœur. Et il a été une bénédiction, comme l'Église catholique a été une bénédiction pour lui à cette époque-là. Donc, quelque part, qu'est-ce que Dieu veut pour toi s'il te dit aussi de lâcher prise et d'entrer dans une nouvelle dimension de vie? Je te dis que ça serait bien que tu ailles te former dans un stage de peinture. « Oh non, Seigneur, j'ai autre chose à faire, hein. Faut que je me nourrisse, etc. » Puis il y en a qui disent « Bah oui, et puis le Seigneur conduit. » Et puis il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être que dans ta vie, le Seigneur te demande aussi de lâcher prise et d'entrer dans une nouvelle dimension de vie. La direction et la priorité de Dieu, ce ne sont pas les nôtres, mais c'est quelque chose qui vient du Seigneur et qui importe. Et lorsqu'il arrive sur ce terrain-là, c'est là qu'il va y avoir la rencontre. On ne sait pas à quel endroit. Combien de temps a-t-il marché ? Dans la réunion de prière, je n'avais pas retenu le fait qu'à un moment donné, il rencontre l'eunuque éthiopien qui, lui, est sur son char en train de lire. Et je me disais, bah, je ne sais pas s'il discutait avec l'eunuque éthiopien lui, était confortablement installé. Et puis on m'a dit, mais non, dans le texte, il est dit qu'il le fit monter sur son char. Et je dis, bah, vu la distance qu'il a fait, je crois qu'il le méritait un peu. Mais ça fait sourire, mais je crois que quand Dieu nous demande d'entrer dans une nouvelle dimension de vie, ça peut nous compter aussi en termes d'efforts. Mais il prévoit aussi le fait que nous soyons soulagés. Je me rappelle que quand j'étais en 87, Francine et moi avons été renvoyés de l'église apostolique à laquelle nous appartenions depuis toute notre vie. Et je me suis retrouvé dehors, à Lorient, dans un petit appartement, etc. Et je me dis, mais comment je vais être porté ? Et là, le Seigneur a ouvert la porte pour que j'entre dans une formation et que je devienne directeur là où j'étais veilleur de nuit. Il m'a porté. C'était un peu le désert pour Francine et moi à ce moment-là. Mais quelque part dans ce désert, on a vécu des choses extraordinaires et les portes se sont ouvertes les unes après les autres jusqu'à ce que l'Église apostolique nous demande de les rejoindre à nouveau. Mais quelque part, est-ce que ce que Dieu veut, c'est que tu lâches prise et que tu rentres dans ta vie ? Dans ton appel, maintenant. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche dans la direction du sud, prends la route qui descend. » Et puis, on voit la disponibilité de Philippe. Et puis, quelque part, il rencontre un Éthiopien, un eunuque. Alors, on va se dire, est-ce qu'on peut s'identifier à l'eunuque ? C'est quoi cet Éthiopien ? Haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors. Alors, on passe souvent, on fixe sur... On peut mettre à la première diapo. On passe souvent sur le fait qu'il soit haut fonctionnaire, gardien des trésors, en tout cas, ministre des finances. En tout cas, on passe sur la question de Candace. En fait, Candace, c'est quelqu'un d'important. Et en fait, Candace, ce n'est pas son nom. Candace porte un autre nom, c'est Amanitore. Candace, ce n'est pas un nom, c'est un titre. En fait, en méroïte, c'est un titre qui s'adresse à des femmes qui ont gouverné l'empire, le royaume ou l'empire Kush. Et en fait, je vous prédance, Candace. Et c'est vraiment elle, hein, c'est elle. Non, vous ne la reconnaissez pas. Ah, c'est drôle. Mais en fait, la reine Candace, c'est la cinquième des reines connues à avoir porté ce titre de Kandak. Et en fait, ce sont des femmes qui sont venues au pouvoir non pas comme régentes, non pas comme femmes du roi, d'un roi décédé. Ce sont des femmes qui ont pris le pouvoir et qui ont assumé totalement la royauté du royaume de Kouch. Alors, le royaume de Kouch se trouve au sud de l'Égypte. Et si je mets la troisième diapo, l'empire Kouch, il est là. Ici, vous avez l'Égypte. Et c'est important aussi que vous ayez un petit peu une idée d'où vient l'eunuque éthiopien. Et en fait, quand les Candaces, ce sont des reines qui ont été... C'est un empire qui a duré à peu près 800 ans. Candace a été reine de du royaume Kouch à peu près pendant une quinzaine d'années. Et la reine qui était juste avant elle est certainement celle qui a fait émerger la puissance et la richesse de ce royaume, entre autres qui exploitait du fer. C'est-à-dire que c'était un royaume qui avait des richesses du fait de l'exploitation de mines de fer. Et aussi une certaine autorité et puissance économique, mais aussi de guerre. Les femmes dont il est parlé, les Candaces, ce sont des reines guerrières. Et la reine, au moment où cette eunuque arrive, était notamment connue pour son autorité, son pouvoir, et celle qui était avant aussi. Elle avait, entre autres, combattu les Romains et remporté de très, très, très importantes victoires. À un moment donné, elle a pillé des temples romains, elle a pris des statues d'Auguste César et elle en a décapité une en bronze et puis elle l'a enterrée sous le seuil d'un temple de Méroé, pour que les croyants, quand ils rentraient dans le temple, marchent sur la tête de l'empereur. C'est dire si elle avait peur de rien. C'est cela. C'est de là d'où vient cet eunuque éthiopien. Et donc, Amantitère ou Thorée vient de là, elle est Kandak, et l'eunuque éthiopien vient de cet endroit-là. Je vous ai mis la carte parce que cet eunuque éthiopien parcourt 1500 kilomètres pour aller adorer Dieu. On se dit, mais pourquoi est-ce que cet homme qui vient ici, qui est eunuque, de l'empire Kouch, fait ce voyage-là? On suppose qu'il y a deux hypothèses. Il y a des juifs dans l'empire, en tout cas des populations qui sont devenues juives grâce à des juifs qui ont remonté le Nil. Puis l'autre tradition, c'est qu'en fait, ces juifs-là sont nés du retour de la reine de Saba, qui est, du temps de Salomon, rentrée dans son pays après sa rencontre avec Salomon et qui a autorisé et permis aux populations là de se convertir au judaïsme. Alors, c'est pour ça que vous avez un eunuque éthiopien, donc de race noire. Les Kandaks, ce sont des femmes noires et qui ont, pour celles qui précédaient Aminatoré, négocier avec l'empereur romain une certaine liberté. Ils ont même imposé des limites. Ça veut dire que la reine qui était juste avant celle de l'eunuque éthiopien a posé des limites, a négocié des limites avec Rome qui faisait que l'empire Kouch était totalement libre de faire ce qu'il voulait. Des femmes, quand on les met au pouvoir, quand elles veulent quelque chose, vous avez vu ? C'est pour ça que dans l'Église, on fait attention. Hein. On ne va pas leur donner trop de pouvoir. Hein. L'eunuque éthiopien, en fait, il avait avec lui un rouleau d'Ésaïe. C'est quelque chose qui, à cette époque-là, était considérable. Ça veut dire qu'il y avait vraiment, dans l'Empire Kouchite, ou Kouch, une culture judaïque. Et il est allé adorer. Mais il y avait un inconvénient. C'était un eunuque. C'est-à-dire qu'il a fait 1500 kilomètres pour aller jusqu'à Jérusalem, alors qu'il savait pertinemment, selon la loi du Lévitique, qu'il ne pourrait pas rentrer dans le temple. Parce qu'on ne peut pas être imparfait, et en l'occurrence, un eunuque, c'est quelqu'un qui est porteur de mort et qui ne peut pas donner la vie du fait de ce qu'il a subi, et donc il ne peut pas rentrer dans le temple, accomplir des sacrifices, etc. Il veut rencontrer Dieu, mais il fait 1500 km pour rester à la porte. Vous êtes prêts à faire 1500 km pour rester à la porte du lieu où vous vous rendez? Vous voyez la foi de cet homme. Il fait ce chemin-là, et malgré tout, il dit, je vais le faire même si je ne rentrerai pas. Il me fait penser à cette femme victime d'une perte de sang dans l'Évangile qui dit « Si je touche juste le bord de sa robe, je serai guéri. » Je ne demande pas à ce qu'il me parle, je ne demande pas ce qu'il prie pour moi, qu'il m'impose. Si je touche sa robe, eh bien, le duc éthiopien est dans la même attitude. Si je vais jusqu'à la porte du temple de Jérusalem, je serai au plus près de Dieu, ça me suffit. C'est dire la foi de cet homme-là. Et parfois, je me pose la question si j'ai la foi de cet eunuque éthiopien, si je vais jusque dans la présence de Dieu, simplement pour le ressentir. Cet eunuque est semblable à ceux qui franchissent la porte de nos églises, qui viennent ou qui reviennent de loin, parfois blessés par l'institution, par le monde, par l'histoire, qui ont l'envie d'être en relation avec Dieu, mais qui sont un petit peu à la marge. Comment l'Église peut-elle être là aussi une Église qui accueille, une Église qui donne son attention? Est-ce que nous pouvons aussi être pour les eunuques de ce monde qui sont porteurs de mœurs, qui ne peuvent pas donner la vie spirituellement, être de ceux qui accueillent, qui reçoivent et qui transforment les choses et qui font qu'on a la vie qui supplante la mort dans ces êtres-là. L'esprit dit à Philippe, approche, rejoins ce char. Philippe se met à courir, entend l'homme qui dit Esaïe, et l'autre lui dit, mais comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Et la question de Philippe, mais est-ce que tu comprends? L'idée, ce n'est pas est-ce que tu, intellectuellement, tu comprends. Est-ce que ce que tu lis devient vivant pour toi? Est-ce que l'Église est une Église qui permet à ceux qui sont en recherche, comme cet eunuque, de comprendre le salut de Jésus-Christ? Et là, il n'est pas sur n'importe quel passage. Il est sur le passage où Isaïe dit, voilà, il a été, il est venu. En fait, quand il est parti du royaume de Couche, il était en train d'espérer dans la réalisation la venue de ce Messie qui était annoncé au peuple d'Israël. Il avait beau ne pas être en Israël, mais là, l'espérance était déjà dans son cœur. Le monde attend la révélation des fils de Dieu, dit Paul dans les Romains. Le monde attend. C'est-à-dire que nous sommes des Philippe et que le monde est rempli d'hommes et de femmes qui attendent la révélation pour que la parole de Dieu s'ouvre et qu'ils puissent accéder à l'espérance qui se trouve en Christ. Est-ce que nous sommes là aussi? Est-ce qu'on peut dire à ce monde, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ton attente, ta soif, ton espérance? Comprends-tu? Quand il dit cela, Philippe, il ouvre la voie à un dialogue profond. Ça nous enseigne aussi sur la nécessité parfois de pouvoir interpeller directement. Est-ce qu'on le fait, ça? Ou bien, tu as une attente. Bon, bah, bon courage. Hein. À bientôt. Ou bien est-ce que nous rentrons, nous ouvrons la porte d'un dialogue vrai, là où je travaille, avec mon collègue de travail, à l'école, avec les autres mamans qui récupèrent leurs enfants, avec les patients dont on s'occupe, etc., etc. Est-ce qu'à un moment donné, on est capable d'ouvrir? Je me rappelle que dans mon bureau, j'avais... Je la raconte souvent, mais j'avais un petit écriteau quand je travaillais avec les SDF, en hébreu, comme ça, je me dis, moi, je sais ce qu'il y a dessus, eux, ils ne savent pas. Donc, au moins, j'ai un verset qui me parle, etc. Et puis, c'était un verset qui disait, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et j'avais ce verset-là tous les jours, pendant des années, sous mes yeux. Jusqu'au jour, il y a un SDF qui m'a regardé, il m'a dit, ce qu'il y a là, c'est un verset de la Bible. Ah, lui, ah bon? J'ai surpris. Et de fil en aiguille, on a eu un dialogue profond. Ce garçon-là s'est converti, ce SDF. Il s'est donné à Christ. Parce qu'à un moment donné, j'ai accepté de l'interpeller. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Et de fil en aiguille. Le passage de l'Écriture décrit le Christ. Et Philippe annonce la bonne nouvelle de Jésus à l'eunuque. Pendant 3 ans, il a certainement, Philippe, été un disciple qui suivait Jésus. Est-ce que nous avons aussi pris le temps de nous laisser former par Christ au quotidien? ces dernières années. Est-ce que nous sommes prêts à ça? À nous laisser former. Former, ce n'est pas dire, bon, bah, le matin, je lis un passage de l'Écriture ou je fais le minimum syndical pour être un bon chrétien. Non, c'est est-ce que je suis en formation avec Christ? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je le laisse m'enseigner? Est-ce que je le laisse remettre en cause ce que je suis, ce que je pense, mes croyances vis-à-vis de moi-même, comme mes croyances vis-à-vis de lui? Est-ce que je suis dans ce temps de formation et de cette relation? Parce que c'est cela dont il est question pour être un disciple. Tu en es où de ta formation? Moi, je trouve ça génial. Parce que j'ai des personnes qui me demandent est-ce qu'on pourrait partager l'écriture, dialoguer, échanger. Et moi, je me forme en même temps qu'eux. Ça continue ma formation. Et j'en ressors, je dis waouh, c'était chouette. Il m'a beaucoup apporté, ce garçon. Ouais? Où tu en es de cette formation pour interpeller ce que Dieu te donnera de rencontrer sur le chemin qui est désert? Et puis, quand il explique tout cela, l'évangile s'ouvre, la bonne nouvelle s'ouvre, et l'eunuque finit par dire, ben voilà, j'ai tout reçu. Et vous savez à quoi on le voit? Parce qu'à un moment donné, ils arrivent à un endroit, on ne sait pas où, vous savez qu'on ne sait même pas le nom de l'eunuque, hein, mais à un moment donné, il y a de l'eau, et l'eunuque dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Bah, j'aime beaucoup cette question de l'eunuque. Qu'est-ce qui empêche? Vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre la plénitude de Dieu? La peur. La peur de quoi? C'est une... Merci. C'est vrai. Ce qui... Il y avait une écrivaine américaine qui, à un moment donné, disait, et c'était un texte qui se trouvait dans la cellule en Afrique du Sud de Nelson Mandela. Il dit, ce qui nous fait peur, c'est pas que nous pensions que nous sommes petits et nuls. Ce qui nous fait peur, c'est en fait d'être confrontés à notre grandeur. C'est la peur qui nous habite, la peur de penser que si je prends conscience de qui je suis, ça m'ouvre un monde et un univers qui peut quelque part m'effrayer. Devenir disciple de Christ, c'est rentrer dans une dimension. Alors il y a la peur aussi de où est-ce que je vais, l'inconnu, etc. Hein, pour Philippe, va sur le chemin où il n'y a personne, à 100 km de là, refais le chemin. Ouais, mais sur un chemin où il n'y a rien, il n'y a personne, je vais faire quoi, etc. La peur, c'est souvent ce qui nous empêche de saisir les opportunités que Dieu, non pas souhaite, mais veut pour nous. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas maîtriser. Je pense que pour certains, c'est pour... Non, hein, pas maîtriser les choses, et que ce soit Dieu qui dise, qui agisse, etc. Non, c'est pas ça? Pas maîtriser la suite, le chemin, ce qu'on va faire. Et pourtant, la foi, c'est ça. Dans l'exposition « La foi comme », il y a une affiche, c'est « La foi comme risque ». La foi comme risque. Et je disais à quelqu'un qui se préparait au baptême, lorsqu'on a cette affiche, sur le dessin de l'affiche, il y a une corde comme ça, qui descend. Donc, il y a un risque, monter ou descendre d'une corde lisse, c'est-à-dire, le vide, etc. Et au service militaire, je dis souvent que l'épreuve de commando qui me faisait le plus peur, c'était l'asperge. C'est une plateforme à 20 mètres du sol, avec une tige qui est à 1 mètre. Elle est attachée en haut, mais elle n'est pas attachée en bas. Et je trouve que c'est une belle illustration de la foi. Et j'ai vu un camarade soldat qui est resté une demi-heure bloqué sur sa plateforme parce qu'il faut sauter sur cette tige, la saisir et puis glisser jusqu'au sol. Mais de savoir, puis de même voir qu'avec le vent, elle bouge, c'était tétanisant. Oui, mais elle est attachée en haut. Et la peur, c'est de pouvoir se dire, oui, mais c'est attaché en haut. Dieu tient. Il y a une attache en Dieu. Alors la peur peut effectivement faire que ce soit pour moi la question de l'ONU. Qu'est-ce qui m'empêche? Mais se poser déjà la question, c'est aussi laisser à l'Esprit Saint la possibilité de me dire, tu peux y aller. Tu peux y aller. Alors lui, il se disait, mais est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Finalement, je ne peux pas rentrer dans le temple parce que je suis eunuque. Est-ce que ce que j'ai vécu, ce que je suis, me fait empêcher d'être aussi quelqu'un et quelque chose dans le royaume de Dieu? Quoi que tu aies vécu, Dieu te reçoit tel que tu es. Et avec ce que tu es, il t'appelle à entrer dans une nouvelle dimension de vie. Et comme le dit le titre de ce partage, le nuque éthiopien, quand la vie supplante la mort, il rentre dans une dimension de vie, lui qui ne pouvait plus être intégré à cette pensée. Je vais m'arrêter là, simplement vous dire, voilà, vous êtes et je suis à la fois un modèle de Philippe, mais je suis aussi un modèle de cet eunuque. Alors parfois, il faut faire de la route. Mais la foi de cet homme, c'est même si je dois rester aux portes du temple et je ne peux pas y rentrer, je me rapproche le plus possible de Dieu. Et quand il est sur le retour, il dit, rien ne m'empêchera, ni la vie, ni la mort, ni les puissances du ciel, rien ne m'empêchera de m'accrocher à son amour. Et c'est d'ailleurs la dernière phrase que j'avais mise dans... C'est dans Ésaïe 49, 15, « Moi, je ne t'oublierai pas, dit Dieu. Moi, je ne t'oublierai pas. Je penserai toujours à toi. » Amen. Amen. Je vais laisser Francine nous partager le pain et la coupe.